Chapitre 18. Le vendredi, on ne savait jamais à l'avance si Courteheuse reviendrait de Rouen pour dîner. Quelquefois, il rentrait à 7 heures du soir, quelquefois à 1 heure du matin. On ne l'attendait donc pas. S'il revenait de bonne heure, il dînait avec sa femme, sinon il dînait seul ou ne dînait pas. Un vendredi de mars, il arriva au moment où elle allait se mettre à table et s'assit en face d'elle d'un air de mauvaise humeur, qui se traduisait surtout par les regards interrogateurs qu'il attachait sur elle, en même temps que par son mutisme obstiné. Qu'avait-il ? Il n'était pas dans ses habitudes de le questionner lorsqu'elle voulait savoir quelque chose, l'expérience lui ayant appris que le meilleur moyen de le faire taire était précisément de vouloir le faire parler. Elle attendit donc comme si elle ne s'apercevait de rien. Puisqu'elle n'avait pas de rendez-vous fixé pour cette nuit-là, il s'expliquerait quand il voudrait. Le dîner s'écoula sans qu'il rompît son silence et aussi la première partie de la soirée, mais au moment où elle allait se lever pour lui préparer son grog, il arrêta. « Ne te dérange pas. Il est trop tôt. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, je ne prendrai pas de grog. Tu es souffrant ? Je suis malade. Tu n'as pas mal dîné, il me semble. Je peux manger ce que je veux, je ne dois pas boire d'alcool. » Ce fut un coup pour elle, mais elle n'était pas assez faible pour laisser paraître son émotion. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? Ce n'est pas une fantaisie, c'est une ordonnance de médecin. Tu consultes les médecins maintenant ? Il y a longtemps que tu aurais dû m'engager à le faire. On consulte les médecins lorsqu'on est malade, je ne vois pas que tu le sois. Et c'est lourd sommeil qui me prête quelquefois le soir, m'écrase la nuit et m'hébète le matin, me coupe l'appétit et me donne des nausées. C'est le signe d'une bonne santé, peut-être. Je ne dis pas cela. Alors que dis-tu ? Comment les expliques-tu ? D'où viennent-ils ? Précisément parce que le ton de ces questions était brutal, sans qu'elle pût distinguer si c'était la menace ou simplement la mauvaise humeur qui inspirait cette brutalité, elle répondit avec la plus grande douceur : Je ne suis pas médecin. Mais comme M. Turlure affirmait qu'il n'y avait pas à s'inquiéter de ce sommeil, pour lui facilement explicable, je ne m'en inquiétais pas non plus. Turlure est une bête. Je ne crois pas. Il est instruit, avisé, prudent, et certainement si j'étais malade, j'aimerais mieux être soigné par lui que par bien des médecins. Vas-tu comparer un pharmacien de village à un Nivelle ? Cette fois, elle ne put pas retenir la question qui jaillit de ses lèvres. « Tu as été consulté à Nivelles ?»« Je l'ai rencontré sur le bateau, et de Saint-Adrien à Rouen, nous avons eu le temps de causer. Après m'avoir questionné, examiné, il m'a prescrit un traitement et un régime. Le traitement consiste à prendre des pilules que j'ai fait faire. Le régime, à m'abstenir complètement d'alcool et de sucre, même dans le café. » Elle resta un moment abasourdie, stupéfiée. Mais enfin, qu'as-tu ? Demanda-t-elle après un certain temps. Si tu crois qu'il me l'a dit, c'était la vieille méthode qui donnait des noms aux maladies. La nouvelle ne s'abaisse pas à ces petites choses. Elle sait, cela lui suffit. Et à toi, cela suffit aussi ? Je vais suivre son traitement pendant 3 semaines. S'il n'y a pas de mieux, je le verrai chez lui et il m'examinera à fond ce qu'il n'a pas pu faire sur le bateau. Autant qu'on peut tirer une conclusion de ces paroles d'oracle, je crois qu'il craint quelque chose du côté du foie, ce qui n'est pas drôle. Et quelle est la cause de cette maladie de foie ? Il m'a parlé d'altération de l'organe autant que j'ai pu comprendre sa parlotte purgonesque. Ce qui veut dire ? Je te le demande. Lorsqu'elle était embarrassée, elle avait pour habitude de dire toujours le contraire de ce qu'elle pensait. « Enfin, tu as raison de te soigner. »« Je n'y risque rien. »« C'est égal, cette privation de ton grog que tu aimes tant et auquel tu étais si bien habitué va être dure pour toi. » La persistance de l'hébétement dans lequel je suis depuis quelques mois me serait plus dure encore. Elle voulut reprendre sa lecture, mais les lignes imprimées dansaient devant ses yeux, elle ne voyait qu'un brouillard, ses mains tremblaient. Pendant un quart d'heure, elle put cependant ne pas se trahir autrement. Mais à la fin, n'y tenant plus, elle prétexta un malaise, monta à sa chambre, se déshabilla à la hâte et se jeta dans son lit où elle s'abandonna défaillante. La violence de ce coup l'avait écrasée, mais ce qui maintenant l'anéantissait, c'était de ne rien trouver dans son esprit bouleversé pour en détourner les suites. Et cette impuissance précisément provoquait cette prostration nerveuse. Et ramassée dans son lit, en tas, inerte, comme paralysée, elle se répétait machinalement « Ne plus se voir !» Longtemps, elle resta inconsciente des bruits de la maison et du dehors, aussi bien de ce qui se passait en elle, n'ayant de sensibilité que pour un froid glacial qui, insensiblement, l'envahissait tout entière, la faisait frissonner et claquer des dents, celui de la mort sans doute, qui la gagnait du cœur à la tête et du cœur aux pieds. Ce n'était donc pas « ne plus se voir » qu'elle devait dire, mais « ne plus le voir, mourir ». À cette pensée, une bouffée de chaleur lui monta à la tête, le sang se précipita à coups violents dans les artères, et instantanément, elle se trouva baignée de sueur. C'était la vie qui lui revenait, et avec elle la révolte, l'indignation contre elle-même, la fureur contre les autres. Mourir. Quelle lâcheté avait été la sienne d'en admettre la possibilité. Est-ce qu'on se soumet à la mort quand on aime et qu'on est aimé? On se défend, on triomphe. Et elle se défendrait. Ce serait un duel entre son mari et elle. Malheur au vaincu. Si la lutte pour la vie est la loi de l'humanité, celle pour le bonheur en est une autre non moins juste. Qu'avons-nous à faire en ce monde si ce n'est d'être heureux et de rendre heureux ceux qui nous aiment? Le reste n'est que du prix. Comment s'engagerait cette lutte et comment la soutiendrait-elle? Elle ne le voyait pas dans le trouble qui l'affolait. Mais cela importait peu pour le moment. Elle chercherait. Ceux qui sont décidés à ne reculer devant rien trouvent toujours. L'essentiel était qu'elle ne s'abandonna pas. Et quoi qu'il arrivât, le souvenir du moment de faiblesse qu'elle venait d'éprouver misérablement la relèverait. Cependant, si résolue qu'elle fût, elle rencontra tout de suite une difficulté qui, pour commencer, l'exaspéra. Il avait été convenu avec la Vaupallière que leur prochain rendez-vous aurait lieu dans la nuit du lundi au mardi. Comment maintenant lui faire savoir que c'était impossible? Pendant toute la journée du samedi, elle erra dans le jardin, passant et repassant devant l'étude, mais sans jamais trouver l'occasion d'y entrer pour échanger deux mots avec la Vaupallière. Comme le temps était doux et le soleil radieux, cette promenade pouvait s'expliquer, mais à condition cependant de ne pas se répéter indéfiniment. Quand elle jugea qu'elle devenait compromettante, elle alla chercher une ratissoire, et bien qu'elle eût l'horreur des travaux du jardinage, elle se mit à biner tant bien que mal une corbeille de pensées bordant le chemin de la grille. Que la Vaupallière passât, elle lui jetterait les quelques mots indispensables. Mais il ne passa pas, quoiqu'il eût assurément compris qu'elle avait quelque chose à lui apprendre. De guerre lasse, elle alla s'asseoir dans le kiosque et s'y installa, de façon à ne rien perdre de ce qui se faisait dans l'étude. De sa place, elle voyait la Vaupallière à la sienne, travaillant, penchée sur son bureau. Quand il relevait la tête, elle distinguait bien ses mouvements, mais cependant, sans que leurs regards puissent se croiser et s'entendre. En toute autre circonstance, c'eût été pour elle un bonheur, et elle avait ainsi passé bien des heures, même l'hiver, pelotonnée dans une pelisse, à le regarder, des yeux avec lui. Mais en ce moment, cette entente mystérieuse ne suffisait pas, il fallait des paroles précises. La journée s'écoula sans que l'heureuse chance qu'elle espérait se présentât. Et il en fut de même du dimanche, jusqu'au moment où elle dut partir pour la messe. Comme le lundi elle se remettait au travail du jardinage, son mari vint la rejoindre. « Quelle rage de travailler la terre te prend-on ? » lui demanda-t-il rudement. « N'est-ce pas la saison ? » répondit-elle d'un air ingénu. « C'est un plaisir d'être dehors par ce beau soleil. »« C'est le soleil qui te retient depuis samedi dans le jardin ?» Elle devint attentive. S'il avait remarqué que depuis le samedi, elle restait dans le jardin plus longtemps qu'à l'ordinaire, cela était caractéristique chez un homme qui n'avait jamais fait à sa femme l'honneur d'être jaloux d'elle. Et précisément parce qu'elle se sentait inquiète, elle se fit aussitôt insouciante et moqueuse. « Ce ne serait pas la pluie, » dit-elle. C'est que justement, je crois que plus au soleil, il en serait de même, répondit-il.
Je ne comprends pas. Peux-tu traduire ?
Je veux dire que quand une femme s'est mise en tête de faire la belle, il n'y a pas de temps qui l'en empêche.
C'est moi la femme qui cherche à faire la belle ?
C'est toi.
Il fallait payer d'audace.
Et pour qui ?
Je ne pense pas que ce soit pour Boulnois.
Alors c'est pour Léon.
Au fait, pourquoi pas ? Il est gentil, ce chérubin.
Enfin, que ce soit Boulnois ou Léon, te voilà prévenu.
Il aurait été peut-être plus adroit de me prendre en flagrant délit. Ça t'aurait permis de demander le divorce.
Comme toujours, lorsqu'elle parlait de divorce, il lui tourna le dos.
Alors, pendant quelques minutes, elle continua son travail. Puis, l'abandonnant, elle alla se réfugier dans le kiosque pour réfléchir à la situation que créait cette algarade.
Maintenant, comment prévenir la Vaupalière ? Il aurait donc la cruelle déception de ne pas trouver la veilleuse à sa place lorsqu'à minuit il passerait sur le quai. Et il pourrait se fâcher contre elle de n'avoir pas été averti. Sans doute, elle pouvait lui écrire en lui adressant sa lettre à l'hôtel. Mais c'était là un moyen dangereux, la receveuse des postes ayant la réputation d'ouvrir les lettres qui provoquait sa curiosité de vieille fille, policière et méchante. Comme elle cherchait sans rien trouver de satisfaisant, elle vit la Vaupalière se lever et prendre son chapeau. Évidemment, il allait s'arranger pour longer le kiosque. Aussitôt, elle s'approcha du balcon. Elle ne s'était pas trompée. La Vaupalière tourna sur le quai en ce moment désert, de façon à passer au-dessous de ce balcon.
« Impossible ce soir, » dit-elle vivement. « Il ne veut plus prendre son grog. Dimanche, à la sortie des vêpres, dans la forêt, route du Grand Essart. « Guette-moi de dedans le bois, caché. Quand tu me verras venir, montre-toi. »
Il avait ralenti son pas, mais sans s'arrêter. Il continua son chemin et elle revint à sa place. Il était temps, son mari sortait de l'étude.